Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Avant de continuer l'écoute de cet épisode, je tiens à vous signaler qu'il va traiter d'un sujet important, celui des violences sexistes et sexuelles. C'est un sujet très particulier qui peut potentiellement vous mettre mal à l'aise, potentiellement réveiller des choses désagréables, donc n'hésitez surtout pas, si vous en ressentez le besoin, à arrêter l'écoute de cet épisode, tout court, ou bien pour la reprendre plus tard, n'hésitez pas à faire une pause, n'hésitez pas à vous préserver. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Maëlle Noir. Elle est militante à l'association Nous Toutes et formatrice sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Elle est aussi doctorante en droit de l'homme. Elle travaille sur le sujet des violences sexistes et sexuelles dans les milieux des réfugiés et propose une approche féministe du droit. Nous allons d'ailleurs baser cet épisode sur la formation sur les violences sexistes et sexuelles de niveau 1 proposée par l'association Nous Toutes. Nous allons commencer par évoquer la différence entre conflit et violence. Nous allons définir les types de violences, comment les caractériser aussi, qu'est-ce que la culture du viol de manière assez brève, les chiffres clés de la violence afin de comprendre justement l'importance du sujet dans la société, quels sont les mécanismes des violences, comment est-ce qu'elles se mettent en œuvre, comment les détecter, et surtout aussi, que dire à une femme victime de violence. Alors quand on parle de violence, bien sûr, il y a tout un tas de violences différentes. Et parfois, on ne sait pas vraiment quoi mettre derrière ce mot. Surtout que, de temps en temps, dans un couple, à la maison, dans une famille, on se frite, on s'engueule, on se prend la tête. Et est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est un conflit? Finalement, ça sera le sujet de ma première question, comment différencier le conflit et la violence? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors, moi, je pense que c'est une excellente question à se poser, déjà, quand on parle du sujet des violences. Tout simplement parce que quand on va identifier la nature du problème, donc est-ce qu'on est sur de la violence ou du conflit, on va pouvoir trouver une réponse adaptée. Et donc, du coup, c'est hyper important de connaître la différence entre les deux. Et je pense que peut-être que la plus grosse différence qu'on peut citer, c'est le fait que la violence va intervenir dans une situation, un rapport qui va être inégalitaire. Un rapport de domination, un rapport déséquilibré. Alors que le conflit, il va plutôt intervenir dans une relation équilibrée, égalitaire, une relation de dialogue. Donc par exemple, un exemple super simple, mettons qu'on soit dans un couple, ça va arriver, parfois on va s'engueuler sur où est-ce qu'on part en vacances cet été, est-ce qu'on part en vacances à la montagne, est-ce qu'on part en vacances à la mer ? Bon, si on est dans une situation de conflit, va peut-être y avoir un dialogue, on va peut-être un petit peu s'échauffer parce qu'on sera pas d'accord, etc. Mais au final, on va arriver à un compromis. Et ça, c'est possible parce qu'on est dans une situation, encore une fois, égalitaire. On est sur un pied d'égalité, on peut se poser des questions, se répondre, etc. Et trouver un consensus à la fin. Donc ça, c'est le conflit. Alors que la violence, il va pas y avoir cette structure, équilibrée. Et donc du coup, on va voir que il va y avoir peut-être des rapports de force qui vont se mettre en place, des rapports de pouvoir. Donc très concrètement, quelqu'un qui va peut-être prendre l'ascendant dans la discussion, donc utiliser de la violence verbale, avoir en fait toujours raison à la fin, ou plutôt toujours raison dans le sens où il va obtenir gain de cause à la fin de la discussion. Donc ça, on se situe vraiment dans un rapport de force. Et donc c'est ça la violence. Et je pense que les indicateurs super importants pour déterminer si on se situe dans le conflit ou la violence, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être la peur. Est-ce qu'on est dans une situation où on a peur de l'autre? Voilà. Si on sort un peu du couple et qu'on se met un peu dans le cadre du travail, c'est pas normal d'avoir peur de son patron, par exemple. Si j'arrive en retard au boulot, C'est pas normal que j'aie peur de mon patron ou de ma patronne. Par contre, c'est normal que je me dise mince, je vais peut-être me faire un petit peu engueuler, hein, mais c'est pas normal d'avoir peur. Donc la peur, très bon indicateur. Un autre indicateur, c'est de vérifier si à chaque fois qu'on a une situation, un petit peu une discussion avec quelqu'un, est-ce que c'est toujours la même personne qui a l'ascendant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie plus que l'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours raison à la fin, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, qui arrive au compromis et qui obtient gain de cause ? Donc ça, c'est un autre indicateur qui est important. Après, c'est pas du tout schématique, hein. C'est pas si j'ai peur, donc je suis forcément dans la violence. Si la personne en face gagne la discussion, entre guillemets, alors c'est forcément la violence. C'est plutôt un faisceau d'indices qui va nous permettre de déterminer si on se situe dans le conflit ou dans la violence. Je sais pas si je réponds à ta question.
Si, tu réponds très bien. Mmh. Moi, ce que je comprends aussi, pour le coup, c'est que... Donc, c'est le déséquilibre dans le rapport entre les gens, dans la discussion, qui va indiquer si on est en situation de violence ou pas.
Mmh.
Pour le coup, on peut très bien avoir une situation qui est violente, mais qui n'est pas une violence.
Exactement.
C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on peut se situer dans une situation, justement, avec un mode de communication qui peut être violent, par exemple. Bah, ça arrive toujours de se fâcher avec quelqu'un. Ah, tu m'emmerdes. Oh là, ça me fait chier. J'ai pas envie d'aller en vacances à la montagne. Voilà. Mais ça, c'est violent un petit peu parce que on utilise des injures. On peut avoir aussi peut-être une posture corporelle un petit peu, véhémente, etc. Donc ça, c'est un mode de communication violent. Mais ça veut pas forcément dire qu'on est dans la violence parce que on se situe dans une relation égalitaire. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir. C'est l'idée de relation égalitaire sans rapport de force. J'ai pas peur de l'autre, et même si j'utilise des mots qui peuvent être un petit peu brutaux, qui peuvent me mettre dans une situation où moi je vais pouvoir m'avancer en tant que fervente défendrice de mon idée de partir en vacances à la montagne, et du coup je serai pas forcément dans la violence. Voilà.
D'accord, donc si je comprends bien, si toi et moi on s'engueule parce que toi tu veux aller à la montagne et moi je veux aller à la mer, on peut s'engueuler, on peut s'insulter tant qu'on le fait tous les deux.
Exactement.
Ça va.
Tant qu'on se situe dans
un... C'est notre dynamique, quoi.
Voilà, c'est notre dynamique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et surtout, tant qu'à la fin, on arrive à un compromis qui nous satisfasse tous les deux aussi.
Tout à fait, oui.
Parce que à la fin, on décide de partir à la montagne et que pour les 10 prochaines années, on a la même discussion et qu'on part encore à la montagne, peut-être faut se poser les questions aussi de la relation dans laquelle on se situe.
Je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus clair. Quels exemples ou indicateurs tu peux nous donner pour détecter si on est face à une situation de conflit ou bien face à une situation de violence ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme ça de manière un peu générale ?
Quand on est dans une situation de violence, il y a vraiment l'idée de contrôle, je pense. C'est l'idée de domination qui est pas forcément toujours physique, hein, qui peut être aussi verbale. Mais il y a vraiment cette idée j'ai le contrôle de la discussion, de la situation, et je te laisse pas de place. T'as aucune possibilité de négociation dans l'échange ou dans la relation en général. Hein. Là, je parle d'un dialogue, mais ça peut être dans une relation en général. Alors que dans le conflit, il va y avoir vraiment cette idée de négociation, vraiment d'échange, d'interaction en fait qui va se produire entre les différentes parties ou les différentes personnes qui vont intervenir dans cet échange, et c'est là qu'on voit qu'on se situe pas dans une situation de violence. Je pense que vraiment le conflit, ça arrive dans une situation aussi de débat. Quelque chose où on va être à l'écoute des arguments de l'autre. Je pense que dans la violence, il y a aucune place pour l'écoute de la part de la personne violente, et il y a vraiment une volonté de contrôler la personne qui est en face. Donc quand on sent qu'on n'a pas toute notre capacité d'autonomie et de contrôle face à quelqu'un, c'est un bon indicateur aussi, je pense, pour déterminer qu'on se situe dans une relation plutôt de violence et pas de conflit.
Tout ce que tu dis, au fur et à mesure qu'on discute, ça me rappelle quand même une notion qui m'interpelle, justement, quand tu parles de contrôle, du fait d'imposer, alors que pour le coup, on va peut-être même pas être responsable de ce qui se passe, mais ça me renvoie en tant que parent, en tant que père, à la notion de chef de famille, tu vois.
Exactement.
Très clairement.
C'est normal, parce qu'en fait, ça, les violences, les violences sexistes et sexuelles, surtout, c'est un phénomène qui est ancré profondément dans des systèmes d'oppression, comme le patriarcat, bien sûr. Donc là, tu me parles de père de famille, donc c'est vraiment ça, le pater, le patriarcat. Et ce qui est super important de retenir, c'est que la violence, c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose qui arrive entre individus isolés comme ça, dans leur bulle, qui font des micro-sphères de violence comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, la violence, c'est un problème social. C'est un problème qui est beaucoup plus grand et qui, comme j'ai dit, qui est ancré dans des mécanismes d'oppression, dans des mécanismes de pouvoir tels que le patriarcat, mais aussi le racisme, le colonialisme, etc. Enfin, beaucoup d'autres...
Et l'adultisme.
Exactement, l'adultisme, enfin, de classisme, etc., etc. Et donc, c'est hyper important de garder ça en mémoire quand on réfléchit aux violences et quand on réfléchit soi-même à sa propre situation. Est-ce que je fais partie d'un système d'oppression ? Est-ce que je fais partie peut-être d'un système qui va défavoriser d'autres personnes par rapport à moi ? Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans les violences sexistes et sexuelles et qui est très particulier, c'est une particularité des violences sexistes et sexuelles, c'est que ça se situe dans une sphère beaucoup plus large et beaucoup plus structurelle, comme on dit, systémique de violence.
On y reviendra, je pense, un petit peu plus tard sur, ouais, justement sur ce système qui est en place. Du coup, tu parles d'un système, tu parles de plusieurs violences. Quels sont les différents types de violences ?
Il y en a plusieurs. Alors là, je vais vous parler de différents types de violences. C'est pas quelque chose qui est un outil scientifique ou tu vois qui a été vraiment approuvé.
Oui, c'est quelque chose qui est élaboré par nous toutes.
Voilà, c'est vraiment notre grille de lecture à nous toutes. Quand on explique ce que sont les violences sexistes et sexuelles, on utilise souvent ces catégories. Donc nous, on en a identifié 6. Alors la première, c'est les violences administratives. Donc les violences administratives, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu parce qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire des violences, encore une fois, qui sont ancrées dans ce système de patriarcat. Ça va être, par exemple, la rétention de papier, donc voilà, refuser de donner son papier, par exemple, à sa conjointe. Mais aussi, par exemple, pour les femmes migrantes, le refus de l'administration de donner le passeport, par exemple, ça va être quelque chose d'autre. Ou alors, le refus d'inscrire la mention de genre ou de changer la mention de genre à l'état civil. Ça, c'est une violence administrative. Une violence basée vraiment sur le sexe ou sur le genre.
Et le fait qu'un conjoint puisse, qu'un homme puisse contrôler l'argent donné à sa femme, est-ce que c'est une violence administrative ?
Ça peut être une violence administrative. Nous, c'est vrai qu'on le classe plutôt dans les violences économiques, mais c'est justement ça, en fait, les catégories qu'on utilise à nous toutes, c'est pas du tout quelque chose d'étanche ou de rigide. Au contraire, une violence peut être dans plusieurs catégories. Donc, justement, très bonne transition vers les, vers les violences économiques. Les violences économiques, voilà, c'est des violences qui vont attraire au contrôle justement économique d'une personne. Donc, typiquement, voilà, prendre la carte bleue de sa conjointe, par exemple, un couple, je pense que peut-être une violence économique qui est assez flagrante dans notre société, c'est les inégalités salariales, qui concernent presque tout le monde, en fait, hein. Ça, c'est une violence économique.
Il y en a même dans les inégalités économiques, celle auxquelles on pense pas beaucoup, et qui est directement en lien aussi avec un sujet social qui me tient particulièrement à cœur, qui est le congé paternité. C'est le fait qu'une travailleuse indépendante, quand elle veut faire un enfant, elle doit s'arrêter pour son congé maternité.
Voilà. Ouais.
Et elle n'a pas forcément accès aux revenus qu'elle devrait avoir, alors que, pour le coup, le père, lui, il va pouvoir choisir d'avoir cette liberté de s'arrêter ou pas, et peut-être qu'un congé paternité rémunéré correctement et bien plus large que ce qu'on a aujourd'hui, ça pourrait permettre d'équilibrer la situation.
Exactement, ouais.
Tu vois, comme on se disait,
c'est
pour revenir sur cette notion d'équilibre, quoi.
Exactement, là on n'est pas dans l'équilibre et on voit qu'il y a ces systèmes d'oppression qui vont favoriser certaines personnes plus que d'autres, là en l'occurrence les hommes plus que les femmes. Donc ça, c'est des violences économiques. On parle aussi, nous, donc, des violences psychologiques. Les violences psychologiques, ça va comprendre tout ce qui est justement insultes, harcèlement, d'autres aussi éléments auxquels on pense pas forcément très souvent, mais empêcher quelqu'un de dormir, par exemple. Enfin, je sais pas, imagine, tu vois, quand tu dors, imagine si tu dors 2-3 heures dans la nuit, comment t'es le lendemain, quoi.
Est-ce que... tes parents, quoi.
Hein ? Oui, c'est tes parents, encore plus. Alors là, c'est clair, j'ose même pas imaginer, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu te situes dans une situation comme ça, où par exemple ton conjoint ou ton partenaire t'empêche de dormir, ça fait partie des violences psychologiques qui vont bien sûr avoir un impact sur toi et donc justement sur ta psychologie, quoi. Donc ça, c'est les violences psychologiques. On a aussi donc les violences physiques, bien sûr. Ça, c'est peut-être les violences auxquelles on pense en premier quand quand on parle de violences sexistes et sexuelles. C'est très important d'en parler. Ce sont des violences. Les coups, les brûlures, les morsures, tout ce à quoi tu peux penser. Ça, c'est de la violence physique. C'est assez... on sait de quoi on parle quand on parle de violence physique. Peut-être un petit peu moins les violences psychologiques ou les autres types de violences. C'est pour ça que je m'attarde un peu plus peut-être sur les autres. On peut aussi s'attarder sur les violences sexuelles. Ça aussi, c'est vrai qu'on y pense aussi quand on parle des violences sexistes et sexuelles, justement. Donc, ça va être les agressions sexuelles, viols, tout ce qui va justement entrer dans l'intimité sexuelle de la personne et qui va aussi attraire au contrôle peut-être du corps de quelqu'un.
Dans quel cas tu ranges les attouchements ?
Alors, les attouchements, donc nous, on parle pas d'attouchement à nous toutes, tout simplement parce que c'est pas un terme qui existe dans la loi, en fait.
Ah ouais.
Ça ne veut rien dire, les attouchements. C'est un terme qu'on utilise dans le langage courant, c'est vrai, mais en fait, nous, on appelle ça une agression sexuelle. Donc, voilà, je te mets face à une situation. Imagine, t'es à une soirée et t'as une copine qui vient te voir et elle te dit « j'ai subi des attouchements, il y a quelqu'un qui m'a touchée ». Voilà, ça, c'est la première situation. Quelques heures après, t'as une autre copine qui arrive et qui te dit « écoute, Cédric, moi, j'ai subi une agression sexuelle ». Comment tu vas réagir face à ces deux solutions ?
Là, tu parles, par exemple, pour une même main aux fesses, quoi.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est le même acte.
Bah, c'est vrai que ça me paraît assez évident que pour le même acte, on a un mot qui caractérise, pour le coup, très bien ce qui s'est passé. C'était une agression à caractère sexuel.
C'est ça.
Et finalement, en fait, le mot attouchement, c'est quelque chose qui est, si je comprends bien, qui est juste là pour minimiser une situation.
Ouais,
ça a dû être créé par des mecs, en plus. Je sais pas.
Sans doute.
Non, mais, voilà.
Non, mais c'est clair. C'est exactement ça, en fait. Ça participe à la banalisation des violences, à la culture du viol. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Mm-hmm.
Mais c'est exactement ça. Après, donc, du coup, pour répondre à ta question, les attouchements, ce sont des agressions sexuelles et donc on peut les ranger dans les violences sexuelles, mais aussi dans les violences physiques, par exemple, et aussi les violences psychologiques, comme je disais tout à l'heure.
Mmh.
Et on parle aussi des... Là, je parle des violences sexuelles, mais je pourrais aussi parler un peu du sixième type de violences qu'on a identifiées, qui sont les violences gynécologiques. Les violences gynécologiques ou les violences médicales en général. C'est vrai qu'à nous toutes, on utilise plutôt le terme violence gynécologique parce que ça a trait vraiment aux violences sexistes et sexuelles, mais les violences médicales en général peuvent s'appliquer. Donc là, en fait, les violences gynécologiques, bah, il va s'agir par exemple d'un frottis sans consentement, par exemple. Un gynéco qui va procéder à un frottis sans demander l'autorisation ou sans prévenir sa patiente. Ça, c'est une violence gynécologique. Ou alors, forcer une femme à subir une IVG. Ou alors, interdire une femme à subir, de subir un IVG, par exemple. Une IVG. Donc ça, ce sont des violences, violences gynécologiques. Encore une fois, je répète, ces catégories, elles ne sont pas rigides. Elles sont encore moins scientifiques. C'est juste pour se rendre compte de la diversité des natures des violences. Et typiquement, voilà, je reprends l'exemple du frottis sans consentement. Ça, c'est une violence gynécologique, mais c'est bien sûr aussi une violence sexuelle. C'est bien sûr aussi une violence physique, une violence psychologique. Donc ça rentre en fait dans ces quatre cases, on va dire.
C'est vrai que là, quand on parle, moi, je pense tout de suite au collectif Stop Vogue, mmh. Contre les violences obstétricales et gynécologiques. Et c'est vrai que on en parlait dans un autre épisode avec une autre invitée, Virginie.
Mmh.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que tu as des touchés vaginaux, par exemple, à chaque rendez-vous dans le parcours de maternité, de grossesse. C'est quelque chose qui est obligatoire déjà et on n'a pas besoin de leur demander leur avis.
Exactement.
Alors que si, c'est pas du tout obligatoire. Le toucher vaginal n'est pas du tout obligatoire à chaque rendez-vous. Et deux, a priori, il faut quand même vous demander votre consentement avant
Exactement.
De procéder à l'acte.
Bah, c'est ça, en fait, le consentement, c'est la clé. C'est la clé quand on parle des violences sexistes et sexuelles en général. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance un peu à éluder cette notion de consentement quand on est dans une situation où on est avec, par exemple, un professionnel de santé, parce qu'on sait que c'est un professionnel de santé. Et donc forcément, ici, il y a un peu une relation hiérarchique qui entre en jeu avec la patiente qui, en fait, ne connaît pas la plupart du temps... les dessous du métier, quoi. Donc on fait confiance. Et le ou la médecin qui est l'expert ou l'experte, en fait, parce que c'est sa profession. Et donc c'est vrai que parfois les violences sexistes et sexuelles, elles interviennent dans des milieux tels que les milieux médicaux. Et c'est vraiment difficile de les identifier. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que nous, on divise les différents types de violences en catégories, dans ces 6 catégories, pour montrer vraiment qu'il y a des caractéristiques spécifiques, en fait, pour chaque type de violence. Donc là, voilà, dans la violence, les violences gynécologiques ou les violences médicales, c'est exactement dans ce cas-là, voilà, d'une patiente avec son médecin ou sa médecin, et encore une relation un petit peu hiérarchique qui se situe entre les deux, finalement.
Complètement. Ouais. Ouais, on sent bien le côté un peu domination, et
ouais,
t'as pas trop ton mot à dire, quoi.
Bah, c'est ça, ouais, ouais.
Tu parlais de culture du viol. Bah alors attends, c'est quoi la culture du viol?
Alors ça, c'est une question qui est un petit peu compliquée d'un premier abord, mais en fait, c'est pas si compliqué. Donc souvent, la culture du viol, on va matérialiser ça sous forme d'une pyramide. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des différents types de violences, avec les différentes natures des violences, mais à l'intérieur de ces catégories, j'ai nommé quelques exemples de violences qui peuvent arriver. Eh bien, quand on parle de culture du viol et qu'on se situe dans cette pyramide, il faut imaginer au socle de cette pyramide les actes violents qui vont attraire, par exemple, à l'outrage sexiste ou les agissements sexistes. Donc ça va être, par exemple, des insultes sexistes et sexuelles qu'on peut recevoir soit dans la rue, soit dans le cadre du travail, là, dans les deux exemples que j'ai donnés.
Si, par exemple, je te fais une remarque sur ta tenue au travail, ça peut être un agissement sexiste.
Ah, sympa ta jupe aujourd'hui, wow, j'aime bien ton décolleté. Ben non, c'est ça, c'est une insulte à caractère sexuel ou un propos à caractère sexuel qui crée un environnement de travail dégradant. Et donc, c'est déjà illégal, hein, c'est puni par la loi. Et ça fait partie vraiment du socle de la pyramide des violences.
Je voudrais juste préciser quand même que, parce que souvent, quand on parle de ça, on va dire on peut plus rien dire, mais quand même, si on se connaît. Mais alors, moi, j'ai envie de dire, si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est votre dynamique, un petit peu comme on se disait au tout début, tu vois, par rapport aux violences et conflits, si c'est votre dynamique de discussion, c'est-à-dire si avec, je sais pas, un de vos amis. Alors, dans le milieu professionnel, en effet, je te rejoins, c'est très très particulier, hein. Il faut que ça reste cadré, ouais. Mais si par exemple, un de vos amis que vous connaissez depuis des années ou pas, enfin, en tout cas, avec qui vous êtes très à l'aise, va vous toucher un mot sur votre décolleté et vous allez lui toucher un mot sur comment est-ce que son pantalon lui moule le cul, a priori tout le monde se parle au même niveau. Donc
oui, parce
ça,
qu'on
c'est
est
okay,
dans quoi. Une relation équilibrée, c'est ça.
Je précise juste parce que sinon on va commencer à nous expliquer que voilà, mais vous voulez une société où tout est bordé. Non, c'est pas ça, c'est que malheureusement aujourd'hui on parle des débordements.
Exactement.
Qui ne sont que d'un côté.
Ah oui, ça c'est clair, ouais, c'est bien je pense de rappeler ça. Mais du coup, si je reviens donc à ma pyramide dans la culture du viol, donc essayer vraiment de visualiser une pyramide avec au socle ces injures sexistes, donc ce qui s'appelle l'outrage sexiste ou les agissements sexistes. Ça, c'est ce qui va être en fait la base de la pyramide. Et tout en haut de la pyramide, on va arriver à des infractions telles que les agressions sexuelles dont je parlais tout à l'heure, le viol ou aussi peut-être le féminicide. Et en fait, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui unit tous ces paliers dans notre pyramide, avec au socle les agissements sexistes et en haut le viol? Et ben, c'est ça la culture du viol, en fait, c'est ce qui va unir tous les paliers. C'est-à-dire que d'un premier abord, on s'imagine qu'il n'y a pas de lien entre un agissement sexiste et un viol. Comment on passe de l'un à l'autre? Et ben, en fait, on passe de l'un à l'autre parce que on se situe dans cette pyramide et chaque palier va permettre de passer au palier supérieur. Ça s'appelle le continuum des violences. Et en fait, bah, il est sécurisé ou maintenu en fait partout dans notre société. Donc bah voilà, il suffit d'allumer la radio et d'écouter beaucoup de chansons avec des paroles justement qui vont être extrêmement sexistes, qui vont parfois faire l'apologie de la violence, etc. Surtout la violence envers les femmes ou les personnes, les minorités de genre. Ça va faire partie de la culture du viol. Les discours politiques. Les films, le monde du cinéma, c'est quand même un monde qui est extrêmement sexiste et qui justement va perpétuer justement cette culture du viol. la publicité. La publicité, c'est un très très bon exemple. Alors ça s'est un petit peu amélioré, je trouve, mais c'est vraiment voilà, la femme objet, la femme tronc. Donc là, on a une super formation de Sophie sur la culture du viol, à nous toutes, qui explique ça très bien. Elle est en deux parties. La première partie touche à expliquer d'où vient la culture du viol, donc dans quoi elle opère. Et la deuxième partie, ça va être justement comment la déconstruire. Donc elle est super, cette formation, parce qu'elle donne un petit peu des conseils pratiques pour déconstruire cette culture du viol. Parce que si on déconstruit la culture du viol, on peut mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, en fait, tout simplement.
Vivement.
Ouais.
Si je comprends bien, ce qu'on appelle la culture du viol, c'est comment est-ce que des agissements qui peuvent paraître banalisés dans notre société, en fait. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait d'un individu, hein, c'est vraiment un contexte social, c'est ça, un contexte sociétal qui est à l'œuvre. C'est comment est-ce que le fait que des agissements sexistes et outrasexistes soient OK va valider le fait qu'on passe à une situation au-dessus, à des violences habituelles, à des situations d'harcèlement qui vont permettre qu'on passe au-dessus, jusqu'à arriver, en effet, au viol ou au féminicide. Et ça, c'est pas le fait, pour le coup, que, en effet, comme on le disait, que d'un individu. Ça
Exactement.
Me fait penser à la campagne, à une vidéo que j'ai déjà citée dans l'épisode sur le consentement, à une campagne qui avait été très très forte de CARE, et on peut retrouver la version française aussi chez CARE France. Je sais pas si tu connais la campagne Dear Daddy.
Non,
Alors je t'invite à visionner cette vidéo. Ouais. Alors accrochez-vous, j'ai moi-même pleuré trois fois.
Ok.
C'est très très fort, et c'est justement, en fait, alors je sais plus si c'est une lettre, en tout cas c'est le discours que fait une fille à son père.
Mm-hmm.
En racontant comment est-ce que en acceptant les remarques sexistes, en mangeant avec son voisin, avec ceci, avec cela, avec ses collègues, comment est-ce que en créant cet univers autour d'elle, et ben le fils du voisin finit par la violer. Voilà, c'est extrêmement fort. Tu vois, j'ai encore des frissons quand j'en parle. Ah, ben, j'ai une fille, donc forcément ça me touche beaucoup. Mais ça, c'est une vidéo alors qui est dure, hein, je vous le dis tout de suite, mais que je vous invite à regarder. Je mettrai le lien en description du podcast. Et je pense que ça explique extrêmement bien, notamment aux parents et surtout aussi aux pères. Donc les gars qui écoutaient, je vous invite vraiment à la regarder ou à la re-regarder s'il faut. Voilà, la responsabilité qu'on a, que ce soit dans notre cadre familial, mais aussi dans nos agissements en dehors de notre sphère familiale, quand on est au travail, quand on est entre potes. Le fait que quand on entend Jean-Mille Relou dire à notre collègue qu'elle a un jeune décolleté, le fait que ça soit OK, quoi. Alors,
ouais,
je dis pas qu'il faut intervenir, t'es un chevalier blanc. Ça, c'est une autre... D'ailleurs, ça peut être une autre forme de violence. Mais en tout cas, voilà, dire que c'est pas OK, quoi.
Ouais.
Ne plus accepter ça autour de nous. Donc, ça fait quand même du boulot.
Ça fait du boulot. Et en fait, je pense que la première étape pour commencer à déconstruire la culture du viol, c'est de s'informer, comme tu dis, quoi. Parce que, en fait, il y a tellement d'éléments qui vont participer à renforcer cette culture du viol que le premier travail à faire, c'est identifier ces éléments. Enfin, parfois, mais même moi la première, quoi, je peux participer à des blagues ou à avoir des propos qui, en fait, peuvent justement renforcer cette culture du viol et peuvent parfois être sexistes. Et je suis militante féministe
et doctorante sur le sujet.
Oui, mais c'est important, voilà, de commencer par savoir identifier, en fait, quels sont les éléments qui participent à la culture du viol.
Tu soulèves un petit point qui me parle fortement, et donc je voudrais ouvrir la parenthèse pour nos auditorices. Le fait que tu as beau être militante, tu as beau être doctorante sur le sujet, t'es pas parfaite. Et je pense que ça, c'est important, que ce soit sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, sur d'autres sujets militants ou en parentalité. Personne n'attend une performance de perfection sur le militantisme. Déjà, prendre conscience et faire de son mieux. Je pense que personne n'a le droit d'exiger plus de ça, plus de nous plutôt. Voilà, ça c'est une petite parenthèse.
Absolument,
que je voulais
ouais.
ouvrir, parce que je trouve que la perfection militante telle qu'on peut l'imaginer, ou parentale sur d'autres sujets, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Et donc voilà, faut pas non plus trop se flageller et puis se dire « Ok, là, il s'est passé ça, peut-être que la prochaine fois, je ferai autrement. Voilà. »
Et je vais rajouter un truc à ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Et parfois aussi, je me dis, là, tu vois, j'ai pas envie d'intervenir. parce que je suis fatiguée en fait. Et je pense que c'est hyper important aussi de rappeler ça. On ne peut pas être tout le temps investi de la mission de déconstruire le patriarcat. Voilà. Qu'on soit militante ou pas, de toute façon, parfois c'est ok de se laisser un petit peu respirer et de se dire bah voilà, j'ai pas envie de regarder un documentaire sur la culture du viol. Là, j'ai plutôt envie de regarder un bon film, voilà. Et peut-être quoi, il y aura des trucs un petit
peu.
C'est
117.
Ouais, c'est 117 ou autre. Mais voilà, donc je pense que c'est important aussi de rappeler ça, vraiment la tolérance vis-à-vis de soi, parce que enfin justement, si on travaille sur les violences, mais qu'on n'est pas tolérant vis-à-vis de nous-mêmes, c'est mal commencé, je pense. Donc
ça me rappelle quelqu'un qui nous a formé, toi et moi, qui disait que la première empathie, ça commence
l'avion,
par soi-même.
Ouais.
Et oui, avec la métaphore de l'avion qu'on a déjà évoqué dans le podcast à plusieurs reprises. Et en effet, à commencer par être empathique envers soi-même et à être tolérant envers soi-même, ça ouvre le fait justement d'avoir l'énergie pour l'être pour les autres.
Ça, c'est
sinon,
crucial.
On passe beaucoup de temps. Qu'est-ce qui fait qu'une association comme nous toutes mène des actions sur les violences sexistes et sexuelles? Est-ce que vraiment il y en a tant que ça? Est-ce qu'on a des chiffres sur le sujet? Qu'est-ce qu'on peut se dire sur le nombre de violences qu'on constate?
À nous toutes, c'est vraiment hyper important pour nous de travailler sur ces chiffres. Dans la formation, on en parle beaucoup, tout simplement parce que quand t'es capable de parler des chiffres, t'es capable de te rendre compte de l'ampleur des violences et donc de réaliser l'urgence en termes de réponse contre ces violences sexistes et sexuelles. Donc, les chiffres, ils sont assez choquants, je tiens à le dire déjà, avant de commencer.
Attention, n'hésitez pas à faire du plus 30 ou du plus 15 secondes jusqu'à ce qu'on parle plus des chiffres si besoin.
Donc peut-être que le premier chiffre que je peux donner, c'est le nombre de viols et de tentatives de viols en France par an. Donc il y a 94 000 viols et tentatives de viols en France par an. C'est énorme, c'est difficile de se rendre compte ce que ça représente. Mais ça représente 250 par jour.
Par jour.
250 viols ou tentatives de viols par jour. Et il faut savoir que 9 personnes sur 10... connaissent l'agresseur. Et ça, c'est important parce que ça participe aussi, justement, quand on parlait de culture du viol et des stéréotypes qui gravitent autour des violences. Un viol, c'est pas forcément dans une ruelle sombre avec un inconnu et encore moins parce qu'on porte une jupe. Voilà, donc 9 personnes sur 10 connaissent l'agresseur et c'est donc 250 viols ou tentatives de viol par jour.
Ça fait plus de 10 par heure, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est
oui, bien plus que de 10 par heure. Ouais. Et il faut savoir que les chiffres que je viens de donner, en fait, concernent les plaintes qui ont été déposées. Et on considère qu'il y a environ 10% des victimes ou des survivantes, moi, comme je préfère dire, qui portent plainte. 10%.
Ce qui, en fait, en soi, par rapport aux données que tu donnes, il y a un lien qui me frappe à tout de suite. C'est que quand on sait que 9 fois sur 10, l'agresseur est connu... Ça explique, tu vois, peut-être aussi pourquoi est-ce qu'il y a ce frein énorme à aller porter plainte. C'est que j'imagine, en essayant d'imaginer plutôt la situation d'une victime, je me dis, quand tu dois aller porter plainte et que tu connais la personne, que c'est ton oncle, que c'est ton patron, que c'est, ça a des implications qui sont tout autres aussi.
Bien sûr.
Il y a sûrement des pressions internes et psychologiques pour le coup. Qui sont aussi incroyables.
Et encore une fois, parce qu'on se situe dans une relation de violence, de domination, de rapport de force et de pouvoir. C'est ça, exactement. Et il y a ça qui peut expliquer ce faible chiffre de 10%. Il y a aussi les stéréotypes, encore une fois, qui font partie de la culture du viol, qui persistent encore dans le milieu de la justice ou dans le milieu de la police, au moment de recevoir une plainte. Il faut savoir, d'ailleurs, qu'un policier ou une policière est obligé de prendre votre plainte. C'est un article du Code de procédure pénale.
C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale.
Exactement. Typiquement, un policier ou une policière qui refuse de prendre votre plainte, c'est une violence administrative aussi, finalement.
Et ça, je vous invite à retenir le numéro de cet article, parce que pour l'avoir fait, à partir du moment où on le cite devant l'agent, enfin la personne qui censée recevoir la plainte et qui refuse de le faire, bizarrement, tout se débloque.
Ouais, c'est un bon conseil, ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
15-3.
15-3, c'est vraiment l'article qui oblige le policier ou la policière ou l'agent de force de l'ordre à prendre la plainte. C'est ça, exactement. Alors, en autres chiffres, je peux peut-être citer les chiffres des féminicides. En 2019, on avait compté 152 féminicides en France. Alors, quand je dis « on a compté », en fait, c'est le collectif féminicide par compagnon ou ex. Donc, qui recense ça, en fait, sur Facebook au jour le jour, en fait. Donc ça, ce sont les chiffres. Et peut-être pour finir avec un dernier chiffre, je pense que c'est le chiffre, moi, que je retiens le mieux. C'est une personne sur trois, une femme sur trois va subir des violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie ou a subi des violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie. C'est un chiffre de l'ONU. Donc, c'est là, on passe sur voilà, au niveau mondial.
C'est énorme.
Et c'est énorme, une femme sur trois, quoi. Une femme sur trois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et encore une fois, ça se fait sur des chiffres déclarés. Enfin,
exactement.
Ça n'est que la pointe de l'iceberg, quoi.
Exactement.
Donc c'est extrêmement, extrêmement fort. Et c'est aussi le but un petit peu de cet épisode, c'est aussi de vous donner les moyens d'identifier les choses qui se passent autour de vous. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi violent d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Je me permets de le redire encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause si cet épisode est trop dur. On peut l'entendre tout à fait. Ça se fait aussi dans les formations, nous toutes, donc n'hésitez pas. Il sera là, il sera disponible, vous pourrez finir de l'écouter plus tard, il n'y a pas de problème. Merci pour tous ces chiffres, Maëlle. En effet, c'est toujours très dur à entendre, mais malheureusement, il faut bien passer par là pour bien comprendre la réalité de la situation. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont particulièrement touchées par les violences ?
Alors, souvent, quand on pose cette question, la réponse qu'on nous donne, c'est toutes les femmes peuvent potentiellement subir des violences. C'est vrai, toutes les femmes peuvent potentiellement subir les violences, mais il y a des femmes qui peuvent subir plus de violences ou des violences encore de nature différente. Et donc là, on en parle un petit peu aussi dans les formations, ça s'appelle l'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité, c'est le fait de comprendre que, par exemple, une femme noire ne va pas subir les mêmes violences ou les mêmes types de violences qu'une femme blanche. Tout simplement parce que je parlais tout à l'heure des systèmes de pouvoir qui entrent en jeu dans les violences sexistes et sexuelles. Je parlais du patriarcat. Mais il y a d'autres systèmes de pouvoir qui existent, comme le racisme, par exemple, ou l'agisme, ou le classisme. Et en fait, l'intersectionnalité, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment l'intersection comme une intersection de route, en fait, avec la route du patriarcat et la route du racisme qui se croisent en un point et qui créent une nouvelle discrimination. Et donc oui, il y a des femmes qui subissent des violences de manière plus prononcée, plus fréquente, plus intense que d'autres femmes parce qu'elles se situent justement au croisement de plusieurs systèmes de domination.
Et ça marche aussi avec dans des institutions, hein, je pense notamment à ce qui est appelé encore malheureusement et parfois même encore enseigné le syndrome méditerranéen,
oui, exactement.
Qu'on retrouve beaucoup, c'est un sujet qui revient beaucoup dans le sujet des violences obstétricales et gynécologiques, c'est-à-dire le fait de croire que les femmes appelées méditerranéennes ont une plus grande tolérance à la douleur, que ça va, on peut y aller, on va pas leur faire mal, voilà. Donc, alors que non, ça n'existe pas.
Exactement.
Et là, par exemple, vous voyez, par rapport à une femme non méditerranéenne ou blanche ou un autre terme, en effet, il y a une intersection d'oppression qui se met en place dans les violences qui sont subies, quoi. C'est bien ça.
Exactement. Et donc on peut parler des femmes noires, mais par exemple aussi des femmes en situation de handicap. Donc il y a 80% des femmes en situation de handicap qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc là, on voit la différence, en fait.
C'est incroyable.
C'est un chiffre énorme. Les femmes transgenres aussi sont susceptibles d'être victimes de violences sexistes et sexuelles parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont transgenres. Et donc du coup, c'est c'est ça en fait l'intersectionnalité. Et mais c'est vrai que le syndrome méditerranéen, c'est vraiment, je pense que c'est un très très bon exemple de l'intersectionnalité. Ouais. Ouais, ouais.
Comment est-ce que ces violences se mettent en place en fait? Est-ce qu'on peut parler de mécanismes de violence?
Oui, à nous toutes, on parle de mécanismes des violences. Alors encore une fois, c'est un outil qui n'est pas scientifique, voilà, c'est plutôt une grille d'analyse que nous on propose à nous toutes. Et en fait, elle émerge du fait que dans les années 70, il y a un certain nombre d'associations féministes, notamment aux États-Unis, qui ont ouvert des lignes téléphoniques d'aide en fait aux victimes et aux survivantes de violences, et qui ont remarqué un point commun dans toutes leurs histoires. C'est que justement il y avait des similitudes en fait dans le comportement des agresseurs à chaque fois. Et donc du coup en fait les mécanismes des violences, c'est essayer de comprendre comment les agresseurs en fait ils opèrent quand ils montrent des comportements de violence.
Complètement. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant de s'être dit, tiens, au lieu de... Alors, on écoute la parole des victimes, mais au lieu d'essayer d'analyser, de réfléchir à quel type de victime, parce qu'en fait, toutes les femmes sont des potentielles victimes.
Exactement.
Tous les profils de femmes sont des potentielles victimes. On va plutôt essayer de caractériser les comportements de l'agresseur. Ça, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je t'en prie, vas-y.
Bah alors, nous, donc, on a identifié 5 mécanismes, d'accord ? Je vais les présenter dans un certain ordre. C'est pas, encore une fois, rigide. Je présente 5 mécanismes. Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 3. Ce sont les mécanismes de la violence. Donc, le premier mécanisme, ça va être l'isolement. Voilà. Donc tout simplement, dans un couple, ça va être de dire, tu vas encore manger chez ta sœur, dis donc, ça fait 2 fois cette semaine, est-ce que tu pourrais pas rester avec moi? Voilà, ça c'est l'isolement. Donc en fait, ça va être de petit à petit couper la victime de son cercle familial, amical, professionnel, etc. Donc en fait, ça va être de l'enfermer dans une situation d'isolement, une situation où il y aura l'agresseur et la victime uniquement. Ça, c'est le premier mécanisme.
Ça me fait penser un petit peu aussi à des violences qu'on peut retrouver dans le milieu professionnel, tu sais, quand t'invites tout le monde à la machine à café, sauf une personne.
Exactement.
C'est une manière de l'isoler.
C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'isolement. Le deuxième mécanisme qui va souvent suivre celui de l'isolement, ça va être la dévalorisation. Donc ça, ça va être des phrases du style purée, t'es habillée comme un sac aujourd'hui. Ça va être ça. Pareil dans le monde du travail, ça peut être d'ailleurs la même réflexion. Donc c'est vraiment dévaloriser la victime, agir sur son mental en fait, et lui expliquer qu'elle est moins bien que les autres, qu'elle n'est pas comme elle devrait être, etc., etc. Ça, c'est la dévalorisation.
Il y a aussi des phrases qui me viennent en tête du type quand même, quand je vois tes copines, j'ai pas choisi les plus jolies, quoi.
Exactement. Comparer avec d'autres standards et expliquer que toi, tu vaux moins bien qu'elle. Voilà. Ça, c'est la dévalorisation. Donc, je rappelle, premier mécanisme, isolement, dévalorisation. Troisième mécanisme, inversion de la culpabilité. Celui-là, il est super important parce qu'il est hyper difficile à identifier finalement. C'est de dire, j'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait parce que t'as fait quelque chose avant. Typiquement, la baffe, elle est partie toute seule, mais tes lasagnes, elles étaient dégueulasses. Ça, c'est vraiment un exemple d'inversion de la culpabilité. Donc en fait, la personne coupable, c'est pas la personne qui a mis la baffe, mais c'est la personne qui a cuisiné les lasagnes. Non, c'est pas la réalité, mais voilà, c'est ça le mécanisme de la violence, c'est inversion de la culpabilité. Donc du coup, ça va être l'agresseur qui va se mettre dans la position de victime.
Exactement.
Tout simplement. Ça, c'est le troisième mécanisme.
Ou qui va impliquer, si je peux me permettre, que la victime est quelque part responsable de la violence qu'elle subit. Alors que ça n'est jamais le cas.
Jamais.
Je tiens à préciser.
Voilà, exactement. Ça, c'est l'inversion de la culpabilité. Le quatrième mécanisme, c'est la menace et la peur. Donc, instaurer un climat de menace et de peur autour de la victime. Et tout à l'heure, j'en parlais quand on parlait des indicateurs pour différencier le conflit et la violence. Quand on est quand on se retrouve dans une situation où on a peur de la personne en face de soi, c'est un très bon indicateur. Le cerveau, il est super bien fait. Il est censé envoyer des signaux pour dire ça, c'est pas normal. Et donc ça, justement, instaurer un climat de menace et de peur constant autour de la victime ou de la survivante, Ça, c'est un des mécanismes des violences. Et pour le coup, celui-là, il est peut-être un petit peu plus facile à identifier que les autres. Et surtout que l'inversion de la culpabilité est aussi plus facile à identifier que le cinquième mécanisme. Et donc, le cinquième mécanisme, ça va être assurer son impunité. Alors celui-là, il est aussi particulièrement violent et vicieux, en fait, ça va être de la part de l'agresseur, eh ben de se comporter comme un citoyen parfait, une personne parfaite, un père parfait, un mari parfait, aux yeux de tout le monde, en fait, aux yeux de tous. Voilà, ça peut être même peut-être s'engager dans des associations, s'engager à nous toutes, par exemple, et voilà, se faire passer comme la personne bien sous tout rapport, la personne insoupçonnable. Et ça, celui-là, il est super important, il est dans le sens où il est extrêmement vicieux, parce qu'il va permettre de verrouiller le secret. Si l'agresseur se fait passer pour la personne bien sous tout rapport, personne ne va croire la victime finalement. Personne ne va soupçonner que, bah, effectivement, oui, il peut y avoir violence parce que l'agresseur, bah non, l'agresseur, c'est le chic type, quoi. Il est bien, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les mécanismes des violences. Donc isolement, dévalorisation, inversion de la culpabilité, menace, peur et assurer son impunité.
Et dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut détecter les violences ?
Alors, pour détecter les violences, nous, ce qu'on dit souvent à nous toutes, c'est tout simple, en fait, c'est poser la question. Poser la question. C'est pas toujours facile, en fait. Et parfois, finalement, poser la question, ça peut braquer la personne en face. Donc peut-être plus que poser la question de manière très frontale comme ça, en fait, ça va être tout simplement d'engager un dialogue, ouvrir les portes. Je parlais tout à l'heure de l'isolement comme mécanisme des violences. Le but, ça va justement être de rompre cet isolement, engager un échange avec la victime ou la survivante potentielle et montrer qu'on est là. Le meilleur moyen de savoir si une personne subit des violences, bah, c'est de lui poser la question. Poser la question, tout simplement, est-ce que tu subis des violences ? Est-ce que tu es dans une relation violente ? Est-ce que tu te situes dans une relation où tu as peur ? Voilà. Et ça, en fait, c'est ce qui va permettre d'engager un dialogue avec la personne en face de vous.
Dans ce que tu dis, je retiens aussi le fait que, tu vois, tu as repris la question, donc on va bien sûr adapter cette question à la personne qu'on a en face de nous, son lien et tout. Comme tu le disais juste avant, pour ouvrir des portes par rapport au lien qu'on peut avoir avec la personne. Et c'est vrai que des fois, elles répondent pas. Les personnes, bah parce que ça leur appartient aussi et qu'on doit respecter leur consentement de ne pas vouloir parler. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent on se dit que c'est très frontal, que ça peut même être brutal, mais en même temps, ça permet aussi à la personne d'identifier très très clairement que vous êtes un interlocuteur ou une interlocutrice disponible pour elle et qui la croira, quoi.
Exactement, ça fait sauter les mécanismes de violence dont on a parlé, ça fait sauter l'isolement, ça fait sauter aussi l'impunité qui a été installée par l'agresseur, parce qu'en fait, on montre à la personne en face que bah, nous, on sait, et qu'on la croit, en fait, tout simplement.
Et pour le coup, ça... qu'est-ce qu'on lui dit à une femme victime ? Comment est-ce qu'on sort de ce mécanisme de violence ?
Donc en fait, souvent ce qu'on dit à nous toutes, c'est qu'il faut inverser ces mécanismes de violence. Donc les mécanismes de violence, je les rappelle, ça va être l'isolement, la dévalorisation, inversion de la culpabilité, instauration d'un climat de menace et de peur, et assurer son impunité pour l'agresseur. Donc le but, en fait, c'est d'agir sur ces cinq rouages, en fait, et faire sauter, en fait, les mécanismes. Et donc, du coup, bah, on a des phrases clés qu'on peut dire aux personnes victimes. Le premier, donc, pour rompre l'isolement, ça va être de dire tout simplement bah, « je te crois ». Ce dont on parlait tout à l'heure quand on se disait bah, « comment on identifie, comment on engage le dialogue bah, ?» Tout simplement, c'est d'arriver et de dire bah, « je te crois ». On rompt cet isolement et on montre en fait que la victime, elle n'est plus toute seule. Voilà, il y a quelqu'un qui est là et qui la comprend, qui la croit. Ça, c'est super important.
Elle n'est plus toute seule.
Elle n'est plus toute seule. Le deuxième mécanisme, c'était la dévalorisation. La dévalorisation. Et donc là, la phrase clé, c'est de dire « tu as bien fait de m'en parler ». T'as bien fait de me parler de ça, t'es courageuse de m'en parler, voilà, ça demande beaucoup beaucoup de courage de parler des violences qu'on peut subir. Et donc vraiment, il faut vraiment reconnaître et insister voilà, sur le fait que voilà, la personne en face qui vient vous voir, elle est courageuse, et donc tu as bien fait de m'en parler. Ça c'est la deuxième phrase clé un petit peu pour faire sauter ces mécanismes, d'accord ?
Ok.
Le troisième mécanisme, c'était l'inversion de la culpabilité. Donc l'inversion de la culpabilité, bah, tout simplement, on va remettre la culpabilité au bon endroit.
C'était pas tes lasagnes qui étaient dégueu, c'est lui qui t'a frappé.
Exactement.
Et même si elles étaient dégueu, tes lasagnes,
il n'a pas frappé. Jamais.
Point.
Et donc là, la phrase clé, c'est de dire, bah, tu n'y es pour rien, tu n'y es jamais pour rien, c'est lui le coupable.
J'insiste beaucoup sur cette phrase qui résonne à plein d'endroits socialement. Une victime n'est jamais, jamais responsable des violences qu'elle subit.
Exactement, ça c'est super important. Et donc ça, cette phrase « tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable », ça permet de remettre la culpabilité au bon endroit, tout simplement. La victime, c'est la victime, l'agresseur, c'est l'agresseur. Mmh. Point, c'est tout. Donc ça, ça permet de déconstruire le troisième mécanisme. Le quatrième mécanisme, qui est l'instauration d'un climat de menace et de peur, et bien en fait, là, on va le déconstruire en disant bah, « la loi l'interdit ». Voilà, il y a des lois qui sont là pour protéger les personnes qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Donc, la peur n'a plus lieu d'être, en fait. La peur n'a plus lieu d'être parce qu'il y a une loi qui est là pour te protéger. Ça va déconstruire le quatrième mécanisme. Et enfin, le cinquième mécanisme, qui était bah, assurer son impunité, voilà, pour l'agresseur de se faire passer pour le chic type, quoi, c'est de dire bah, on a compris son manège, on a compris qu'il se faisait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, et donc moi je peux t'aider. Donc la phrase clé, c'est vraiment je peux t'aider, j'ai compris ce qu'il faisait, et voilà, je te crois. Et là, en fait, on revient un petit peu au début des mécanismes, et ce qui montre à quel point tous ces mécanismes sont liés, et ce qui insiste aussi sur l'importance de ces cinq phrases clés pour déconstruire tous ces mécanismes et pour remettre la culpabilité au bon endroit et pour permettre à la personne d'accéder à l'aide dont elle a besoin, tout simplement.
Est-ce que tu peux nous les redire, s'il te plaît, les cinq phrases clés?
Alors, les cinq phrases clés, c'est « je te crois ». Je te crois. Tu as bien fait de m'en parler, tu es courageuse d'être venue me voir ou de m'en avoir parlé. Tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable. La loi l'interdit. Et je peux t'aider.
Merci beaucoup, Mel, pour toutes ces informations. C'est très, très riche. C'est pas forcément facile à écouter, mais en tout cas, c'est important. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail de Nous Toutes, sur les formations, sur les actions qui sont menées par l'association?
Mais alors, donc, Nous Toutes, c'est un collectif féministe qui travaille contre les violences sexistes et sexuelles. On a commencé les formations en 2020, pendant le premier confinement. C'est Caroline Dehaesse qui est fondatrice de Nous Toutes, cofondatrice qui a commencé les formations. Et donc depuis, on forme sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. On a deux niveaux. Le niveau 1, c'est un petit peu ce dont on a parlé avec toi là aujourd'hui. Il y a aussi le niveau 2 qui va plutôt toucher tout ce qui est trauma. On reprend aussi la partie juridique vraiment en détail. C'est un peu technique, mais c'est toujours très très intéressant. Et puis on a d'autres formations sur la culture du viol dont je parlais tout à l'heure et sur l'histoire des violences. Donc en plus des formations, il y a les comités locaux de Nous Toutes qui sont un peu des antennes dispatchées dans toute la France qui vont mener des actions comme des actions de rue. Il y a eu par exemple l'opération Sac à Pain avec le violentomètre sur les baguettes de pain, donc en fait bah, pour essayer de disperser cet outil dans le plus de foyers possible, en fait, pour que chacun puisse comprendre comment utiliser ce violentomètre et justement bah, pouvoir identifier une situation de violence. Et bien sûr, on a la manifestation du 20 novembre 2021 qui arrive, donc la marche contre les violences sexistes et sexuelles qui aura lieu à Paris. C'est vraiment l'événement majeur de cette année et c'est vraiment l'action coup de poing pour essayer de montrer au gouvernement qu'on est des centaines de milliers dans la rue à réclamer des actions concrètes contre les violences pour arrêter les violences sexistes et sexuelles et faire baisser ces chiffres jusqu'à zéro, tout simplement. Il y a aussi le manuel d'action de Caroline Dehaesse, qui a été publié en mars 2021, qui est tout simplement un livre qui va nous permettre d'acquérir des outils pour combattre les violences sexistes et sexuelles. En trois étapes. Donc trois étapes distinctes. La première étape, c'est connaître la réalité des violences. Donc là, en fait, on va reprendre un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure avec les chiffres. La deuxième étape, c'est comprendre les mécanismes. Donc là encore, on revient au mécanisme des violences. Et enfin, la troisième étape, disposer des techniques et des outils pour agir contre ces violences. Donc là, elle va encore plus en profondeur. Et il y a des stratégies très concrètes en fait, qui sont proposées pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au quotidien. Et il faut savoir que tous les droits d'autrice sont reversés donc, à nous toutes pour financer des actions comme par exemple l'organisation de la manifestation du 20 novembre 2021.
Un livre que je vous conseille, que j'ai lu et que j'ai adoré bien sûr, et je vous conseille aussi, comme beaucoup de livres de valeur, de le laisser traîner dans votre toilette. C'est le meilleur endroit,
exactement,
certainement,
pour toucher un plus grand nombre
et que justement ça circule. Merci beaucoup Maëlle pour toute la richesse des informations que tu as pu nous amener. Moi, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle toujours. Là, on a clôturé le sujet des violences sexistes et sexuelles. Je voudrais juste ouvrir une réflexion pour nos auditeuristes. Que ce soit sur le mécanisme notamment d'aversion de la culpabilité ou qu'on parle de culture du viol, je voudrais vous inviter à réfléchir, vous qui nous écoutez, sur la culture de la violence, notamment de la violence envers les enfants. Dire à un enfant qu'il a mérité sa gifle parce qu'il a pas rangé sa chambre, c'est être dans un mécanisme d'aversion de la culpabilité. Il y a des cultures, une culture de la violence qui existe aussi, qui démarre par les violences dites éducatives ordinaires, dont on parle très très fréquemment dans ce podcast, et il y aura un épisode spécifique encore une fois là-dessus dans la saison 3, et qui démarre donc avec ça en bas de la pyramide, et où on arrive tout en haut avec l'inceste et l'infanticide. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Je sais que c'est pas des sujets qui sont très joyeux, mais c'est aussi comme ça qu'on changera la société de demain. Merci beaucoup Maëlle.
Merci à toi.
Et je te dis à très bientôt et sûrement au 20 novembre.
Bien sûr, au 20 novembre, c'est sûr à Paris.
Au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.